À l'écoute de RFI, 18h30 à Dakar et Abidjan, 19h30 à Kinshasa et Niamey, 20h30 ici à Paris. On va faire un point sur l'actualité africaine de ce mercredi avec vous, Zéphirin Kouadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, l'étau se resserre autour de l'ancien président Joseph Kabila. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux vient d'annoncer que le procureur général des forces armées a déposé ce mercredi une requête au Sénat pour obtenir la levée de l'immunité de l'ancien président, ce qui permettrait d'engager des poursuites à son encontre pour trahison, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les autorités maintiennent que Joseph Kabila, au pouvoir de 2001 à 2018, est le cofondateur de la rébellion de l'AFC M23. S'en serait donc entre les mains du Sénat, acquis à la majorité présidentielle. Le Gabon, lui, réintègre les instances de l'Union africaine. Réunie ce matin à Addis Abeba, le Conseil Paix et Sécurité de l'Organisation panafricaine a décidé de lever la suspension de Libreville. 20 mois après le coup d'état militaire, le CPS estime que le processus politique gabonais est, je cite, « satisfaisant ». Cette décision intervient à 3 jours de la prestation de serment de Brice Clotaire-Oligui Nguema, élu à la présidence du pays le 12 avril dernier. Cet après-midi, Brice Clotaire-Oligui Nguema a déclaré que ce retour était, je cite, un symbole de la reconnaissance de notre engagement collectif à reconstruire notre pays dans la paix, l'ordre et la dignité. Le Mali s'achemine vers une pérennisation de la période de transition et un maintien des militaires au pouvoir sans élection. Les consultations des dites forces vives du pays orchestrées par les autorités de transition se sont achevées hier. La primature a publié dans la soirée les recommandations finales, dissolution de tous les partis politiques comme attendu et le général Assimi Goïta élevé au rang de président de la République pour un mandat renouvelable de 5 ans. Les partis politiques maliens dénonçaient unanimement depuis plusieurs semaines ces consultations perçues comme une manière pour les militaires au pouvoir de s'y maintenir et d'en finir avec la démocratie sous couvert d'une fausse légitimité populaire. Ces partis doivent se réunir rapidement pour s'accorder sur la marche à suivre. Et puis au Burkina Faso, des milliers de supporters du capitaine Ibrahim Traoré, chef de la junte au pouvoir, se sont réunis, place de la Nation, rassemblement à l'appel de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne pour exprimer leur soutien au régime du capitaine Traoré, un régime qui a récemment dénoncé une nouvelle tentative de coup d'État. Enfin, au Nigeria, après de nombreux reports, une première audience hier dans le procès du leader indépendantiste biafrais Nnamdi Kanu, fondateur du mouvement du peuple indigène du Biafra. Il a été mis en examen il y a 10 ans pour activité criminelle et appartenance à une organisation illégale. Libéré sous caution, il avait pris la fuite avant d'être arrêté au Kenya après des années de cavale. Hier, un premier témoin cité par le gouvernement fédéral était à la barre pour une déposition jugée peu convaincante par les soutiens de l'accusé. La prochaine audience dans ce procès aura lieu vendredi et la suivante est programmée pour le 6 mai.
Merci Zéphirin Kouadio. On vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour la deuxième édition.
Je confirme.
D'Afrique Soir de ce mercredi, on retourne à notre édition spéciale.
Édition spéciale sur RFI, 100 jours après l'investiture de Donald Trump. Romain Ozoui.
Et oui, dans le cadre de notre journée exceptionnelle sur Radio France Internationale, à l'occasion de ces 100 jours qui ont bouleversé, ébranlé le monde, les mots pourraient se répéter à l'infini. On évoque ce soir l'impact sur l'Afrique et la réponse du continent et des différents pays africains dans quelques instants, mais on va continuer d'évoquer cet impact. On a évoqué le démantèlement de l'USAID qui était très important parce que c'est 80% des programmes de l'USAID qui sont coupés. On a évoqué les conséquences notamment sanitaires. Il y a une autre décision majeure que l'administration Trump a prise et qui concerne également le développement. C'est la fermeture du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Claire Fage, avant de faire réagir nos invités sur ce sujet, est-ce qu'on peut rappeler le rôle de cette agence d'aide internationale qui, pendant des années, a investi plusieurs milliards de dollars dans des projets d'infrastructures essentiellement sur le continent africain?
Oui, c'était aux 2/3 dépensés en Afrique. Les États-Unis choisissaient de financer de gros projets d'infrastructures, électricité, eau potable ou transport. Alors si la Côte d'Ivoire va pouvoir aller au bout d'un programme routier qui a permis de rénover le boulevard du port à Abidjan, le Malawi, lui vient d'annoncer qu'il renonçait au sien, faute de recevoir les 350 millions de dollars attendus.
Alain Antil, ça c'est dans la dans la continuité, on va dire. Un démantèlement de l'USAID, conséquences sur le MCC qui est fermé.
C'est un peu plus surprenant que l'USAID quand on se rapporte un peu au discours de la campagne et même au projet. Au projet 2025 qui sert un peu de guidelines des 100 premiers jours de Monsieur Trump, parce que lui-même dans son premier mandat avait identifié la perte de pouvoir mais d'influence américaine en Afrique subsaharienne, et il disait que ses concurrents et notamment la Chine réussissaient à gagner des parts de marché aussi parce qu'ils étaient très présents sur les questions d'infrastructures qui sont très liées, comme on le sait, aux contrats miniers ou énergétiques. Donc là, c'est plus paradoxal par rapport à son propre corpus d'idées, alors que sur l'USAID, malheureusement, c'est plus cohérent avec son propre projet, même si c'est très regrettable, comme on l'a dit. Là, le MCC, c'est plus surprenant.
Et on peut en mesurer l'impact, comme on a tenté de mesurer l'impact du démantèlement de l'USAID ?
Bah, les chiffres ont été évoqués et on sait que la construction de nouvelles infrastructures en Afrique est un enjeu crucial pour que les pays d'Afrique subsaharienne rentrent sur des trajectoires d'émergence. Ça a été identifié par tous les économistes, par tous les rapports depuis 20 ans. Il y a même des chiffrages. Et les États-Unis, il faut les saluer, prenaient leur part au même titre que les Européens, les Chinois et d'autres sur le financement de certaines infrastructures. Donc là, ça va avoir des effets très, très concrets sur certains pays, malheureusement. Et quelques-uns ont échappé temporairement quelques mois à cette suppression, mais c'est totalement dommageable. Mais ce qui est plus surprenant, c'est presque ça sera dommageable aussi à long terme pour les États-Unis.
Donc on a fait le tour finalement des coups d'arrêt portés au développement avec le démantèlement de l'USAID et la fermeture du MCC. On va évoquer à présent les relations commerciales entre l'Afrique et les États-Unis, qui elles aussi sont durement touchées, très mises à mal par ces 100 premiers jours de Donald Trump. Et quand on parle relations commerciales Afrique-États-Unis, il y a quatre lettres qui s'imposent. AGOA, qui implique une trentaine de pays du continent. L'AGOA, menacée aussi par la politique de Donald Trump. Hein, tous les bénéfices de cette loi sont annulés avec les droits de douane, minimum 10%, même si on le sait qu'il y a cette suspension de beaucoup plus de droits de douane jusqu'à cet été. Claire Fage, est-ce qu'on peut d'abord rappeler ce qui est exactement à l'AGOA? Pourquoi est-ce que c'est si important?
Alors, c'est l'African Growth and Opportunity Act. Il a été adopté il y a 25 ans et il accordait une franchise de droits de douane à 1800 produits d'une trentaine de pays africains, sous condition, respect de l'état de droit, de l'économie de marché, de lutte contre la corruption. Alors, si à l'échelle du continent, les échanges avec les États-Unis étaient très faibles par rapport à ceux avec l'Europe ou l'Asie, l'AGOA bénéficiait en particulier au cacao ivoirien, au textile d'Éthiopie, du Kenya, de Madagascar, du Lesotho dont on a parlé, et aussi aux véhicules d'Afrique du Sud qui sont désormais taxés à 25%.
Paul Simon en dit, le dispositif de l'AGOA arrive à échéance en septembre 2025. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre ?
C'est assez difficile à dire, parce que d'un côté, l'AGOA n'a pas été formellement démantelée, mais la pratique de l'administration Trump, avec la mise en œuvre des tarifs douaniers, de facto annule les effets de l'AGOA. Donc il n'est pas dit que l'administration de Trump va démanteler l'AGOA, peut-être qu'ils vont y apporter quelques précisions. Il n'est pas non plus dit que les droits de douane, qui ne visaient pas particulièrement l'Afrique, là je trouve que l'Afrique est juste victime collatérale, on peut parler du Lesotho et de l'Afrique du Sud peut-être, mais l'Afrique est victime collatérale de décisions qui ont une portée globale en fait, que ce soit la fermeture de l'USAID, que ce soit l'AGOA, ou même le Millennium
Challenge Corporation.
Il s'agit là, en ce qui concerne l'Afrique en tant que telle, on ne voit toujours pas très bien quelle est la direction que l'administration Trump veut prendre. On a comme ça des annonces, mais pas encore véritablement de politique, même pas commerciale. Donc, on est encore dans l'expectative et l'avenir de l'AGOA va peut-être décider une fois que déjà tout le dispositif en matière de décideurs sera mis en place et surtout au département d'État et au département du commerce. Donc là, on ne sait pas trop ce qu'il en sera de cette initiative.
Claire Fage ?
Oui, avant son échéance en septembre, en fait, il devait y avoir des discussions entre les États-Unis et l'Afrique sur ce dispositif en juillet. Et bizarrement, ça coïncide avec la fin du délai de 90 jours que Donald Trump s'est donné pour revoir les relations commerciales avec chacun de ses partenaires. Donc, en fait, rien n'est définitivement perdu pour l'AGOA. Mais ce qui semble évident, c'est que le président américain, dans l'intervalle, il privilégie les deals bilatéraux avec les pays africains dans les secteurs qu'il estime stratégiques, comme les minerais, sur lesquels d'ailleurs il n'a pas imposé de taxes. Alors on le voit avec les accords en négociation avec la RDC et le Rwanda, on y reviendra peut-être, et sa promesse de consacrer 6 milliards de dollars au corridor de Lobito pour acheminer une part de ses ressources vers la côte angolaise, alors même qu'il a mis fin à tous les autres programmes d'aide aux infrastructures sur le continent.
Alain Antilly, Paul Simondi s'interroger sur la cohérence de la politique de Donald Trump à l'égard de l'Afrique en disant qu'il n'y avait pas vraiment de cohérence. Est-ce que finalement, il n'y en a pas une à partir du moment où il y a le démantèlement du SAID, la fermeture du MCC? Et alors Paul Simondi s'interroger sur le démantèlement à venir ou pas de l'AGOA, mais ce serait la suite logique?
Oui, c'est difficile à dire, hein. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Et puis, il faut relativiser parce que je regardais quelques chiffres cet après-midi. Pour l'Afrique subsaharienne, le marché américain représente 4,6% de ses exportations moyennes entre 2018 et 2023. Bon, c'est une moyenne, donc il y a des situations nationales très différentes. Mais il faut relativiser l'impact de ces tarifs. Alors, sur la question que vous posez, il y a une vraie logique, c'est celle du démantèlement de l'aide et de sortir des accords un peu généraux et favoriser les négociations bilatérales. Je crois que c'est un peu les trois choses qui ressortent, en tout cas sur le côté économico-aide.
Et puisqu'on évoquait cette date de septembre prochain, comment voyez-vous l'avenir de l'AGOA? Parce qu'encore une fois, l'enjeu, il est important. Ce sont des milliers de produits qui sont concernés.
Là, je rejoins un peu l'aspect dubitatif qui a été souligné. Je me permettrai pas de dire ce qui va se passer parce que je crois qu'on peut avoir encore des surprises. Donc, je veux pas faire de prévision parce que c'est très, très compliqué.
Alors, on évoquait tous ces pays africains qui sont touchés par les mesures de l'administration Donald Trump et l'indifférence. Alors, lors du premier mandat de Donald Trump, c'était l'indifférence qui dominait concernant les pays africains. La question, c'est aujourd'hui à quel point est-ce que la politique de Donald Trump nuit aux États africains. Il y a des États africains qui semblent intéressés. La nouvelle administration Trump, Claire Fage, vous avez évoqué la RDC, on y vient. Bonsoir Lisa Fabian.
Bonsoir.
La RDC où au début du mois, le monsieur Afrique des États-Unis, lui aussi on va en parler, Massad Boulos, s'est rendu. Washington a chapeauté la semaine dernière une déclaration entre Kinshasa et Kigali. Pourquoi ces efforts, cette volonté de la part de l'administration Trump?
Eh bien, cette diplomatie américaine, elle est portée par un intérêt très fort pour les ressources de la RDC. Il s'agit avant tout de sécuriser l'accès américain aux minerais stratégiques dans un contexte de rivalité économique très forte avec la Chine. Tantal, niobium, terres rares, or, le sous-sol congolais regorge de richesses. Mais pour y accéder, il faut d'abord ramener un peu de stabilité dans la région, faire la paix pour favoriser les investissements sur place. Dans un contexte de guerre actuellement à l'est de la RDC, l'exploitation artisanale des minerais est contrôlée par des réseaux informels et les autorités congolaises pointent la présence de centaines d'entreprises chinoises qui opèrent en marge des règles. Alors, en 2024, la RDC a intégré le Minerals Security Partnership Forum. Objectif: sécuriser et diversifier les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques. Une stratégie déjà développée par les Américains plus au sud dans le Katanga avec le corridor ferroviaire de Lobito qui relie les mines du Katanga la Tonga et de la Zambie jusqu'à la côte atlantique, on en parlait. Mais l'idée d'étendre cet axe vers l'est s'était heurtée, selon Washington, à un refus du Rwanda.
Merci Lisa Fabian. Paul Simon dit, voilà ce qui intéresse Donald Trump, on y vient. C'est son sous-sol finalement ce qui intéresse Donald Trump dans l'Afrique.
Oui, c'est son sous-sol, il ne s'en cache pas vraiment, mais je pense que diplomatiquement aussi, il se rend compte. Le président Trump a fait beaucoup d'annonces sur sa capacité à faire la paix en Ukraine et entre Israël et Gaza en très peu de temps. Et je crois que depuis qu'il est au pouvoir, il s'est rendu compte que c'était très difficile d'apporter une solution rapide à ces conflits-là. Et subitement, on voit des avancées très inattendues en RDC, surtout entre la RDC et l'euro dans la crise des Grands Lacs. On voit que les États-Unis sont devenus un acteur qui pourrait même présider à la signature d'un accord qui n'a pas été possible de signer sous l'égide de plusieurs autres facilitateurs. Donc oui, le sous-sol de la RDC attire, mais pourrait aussi avoir des effets diplomatiques positifs et très inattendus pour les États-Unis.
Une grande nouvelle en provenance d'Afrique où je m'occupe aussi de résoudre des guerres. Ça, c'est ce qu'avait déclaré Donald Trump sur son réseau social. Comment vous observez cela, Alain Antil, l'intervention de l'administration Trump concernant la RDC? Je ne sais pas si on peut comparer avec les tentatives d'accord en Ukraine concernant les minerais. On en vient au bilatéral.
Oui, il semble que à l'origine, ce sont les Congolais qui ont tendu la main aux Américains. Et le voyage de Massa Boulos s'est fait pas à la demande seulement de la RDC, puisque il a prolongé son voyage dans d'autres capitales de la région. Mais il y a eu une initiative côté congolais. Et ce qu'il faut noter, c'est que l'initiative américaine est très bien coordonnée avec l'initiative qatari. Et d'ailleurs, je crois que en ce moment ou demain, il y a une réunion technique qui réunit les quatre pays, c'est-à-dire États-Unis, Qatar, RDC et Rwanda. Et je crois qu'il y a un représentant français qui est là pour une réunion technique, hein, pas politique, mais pour organiser un accord de paix qui a été promis, je crois, pour le 2 mai ou dans les jours qui suivent. Donc, ça serait peut-être le premier succès diplomatique de Trump 2. Pour l'instant, on dirait que tout se passe plutôt bien, mais bon, on sait que les acteurs sont sur le terrain sont assez retors et qu'il y a déjà eu des périodes d'accalmie et pour l'instant il y a encore des combats. Donc on est quand même dans une phase un peu inespérée quand on voit dans la situation dans laquelle on était il y a quelques mois.
Succès qui serait à mettre à l'actif de Massad Boulos, de conseiller principal des États-Unis pour l'Afrique.
Et de Trump, puisque
on peut le présenter.
C'est lui qui l'a nommé. Je pense qu'ils sont en famille. C'est le beau-père d'une de ses filles, je crois. Et Massad Boulos, lui, il a une expérience africaine, mais c'est un homme d'affaires. Je crois qu'il a vendu des automobiles. Il était dans le secteur automobile au Nigeria.
Très Trumpiste.
Il est d'origine. Il a la double nationalité. En tout cas, il est libanais et américain, je crois. Et comme Witkoff pour le
Proche-Orient.
Pour le Proche-Orient et pour l'Ukraine. Il semble que le président américain s'appuie sur des gens qui savent faire des deals. C'est-à-dire pas des diplomates et des hommes d'affaires. C'est assez curieux, mais.
Effectivement, mais ça rejoint complètement l'idéologie trumpiste. Ça nous amène à évoquer d'ailleurs l'Afrique dans le jeu géopolitique avec une Amérique qui est dirigée par Donald Trump. Bonsoir Vincent Souriau.
Bonsoir.
Dans ce cadre-là, vous nous dites que Donald Trump s'apprête à dynamiter la politique africaine des États-Unis.
Pour l'instant, on parle d'un brouillon ébauche de décret présidentiel qui n'a pas été validé par Marco Rubio, le patron de la diplomatie américaine. Tellement pas validé d'ailleurs qu'à propos de ce document de 16 pages qui circule, il a parlé de fake news en accusant les journalistes qui ont sorti cette info de se laisser intoxiqué, donc ce n'est pas officiel. On ne sait pas encore si ce projet va atterrir sur le bureau de Donald Trump.
Alors, c'est peut-être pas officiel, vous dites, mais il circule ce projet dans les cercles diplomatiques aux États-Unis et il est très précis.
Sur le papier, c'est une bombe. Hein. Il prévoit un changement radical de la doctrine diplomatique des États-Unis. Le département d'État serait réorganisé en quatre pôles, Eurasie, Moyen-Orient, Amérique latine, Asie-Pacifique. Disparition pure et simple donc du bureau Afrique, remplacé par un envoyé spécial aux affaires africaines qui ne dépendrait plus des affaires étrangères. Cet envoyé spécial pour l'Afrique serait placé sous l'autorité du Conseil de sécurité nationale, autrement dit prisme avant tout sécuritaire, car d'après ce texte, dans la relation des États-Unis avec l'Afrique, l'accent doit être mis avant tout sur la lutte antiterroriste d'une part, et d'autre part, on vient d'en parler, sur le commerce des ressources naturelles.
Est-ce que cela veut dire suppression de postes diplomatiques sur le continent africain ?
Oui, l'avant-projet parle des postes, je cite, non essentiels. Toutes les ambassades et tous les consulats non essentiels en Afrique subsaharienne ont vocation à être fermés, c'est ce qu'indique ce document. Les implantations diplomatiques qui restent seraient confiées à cet envoyé spécial aux affaires africaines pour des missions ciblées, sans que l'on sache exactement ce que ça veut dire. Modification censée, si ce décret se confirme, et il faut rester prudent, modification censée prendre effet dans moins de 6 mois dès le 1er octobre.
Paul Simon dit, vous entendez ce que nous dit Vincent Sourillot ? Plus de bureaux Afrique au département d'État américain, des fermetures annoncées des ambassades, des consulats jugés non essentiels en Afrique subsaharienne. Si ça se confirme, ce serait une petite révolution ?
Ce serait en effet une petite révolution. Ça confirmerait beaucoup de soupçons sur le caractère non prioritaire de l'Afrique dans la politique étrangère américaine, mais ce serait une vraie révolution. Je pense que si ça devait entrer en vigueur, ce serait pour les États-Unis à moyen et à long terme très probablement un désastre. Un désastre parce que si on le met en rapport avec le démantèlement de certains dispositifs comme le MCT particulièrement, qui investissait dans les infrastructures. Or, l'Afrique a besoin un énorme besoin en infrastructures que la Chine a su combler au moins en partie. On peut discuter de la qualité des deals qui ont été faits, mais au moins l'intérêt que les Africains portent à la Chine tient au fait qu'elle a identifié le besoin en infrastructure, que justement le MCC arrivait peut-être pas à contrecarrer, mais c'était un déficit que le MCC avait compris et contribuait à combler. Si les États-Unis venaient à réduire leur voilure en Afrique, l'Afrique reste quand même un continent extrêmement stratégique, notamment en raison de la jeunesse de sa population et en raison du fait que la croissance africaine n'est qu'à ses débuts, en fait. L'Afrique est encore tout à faire. Ce serait pour les États-Unis probablement à moyen et à long terme un petit désastre économique, ouais. Car il laisserait aux concurrents américains un espace dont ils rêvent.
Un désastre, Vincent Sourillot, mais vous avez entendu Paul Simon qui dit que la Chine pourrait en profiter.
Oui, les autorités chinoises ne vont pas combler le vide laissé par les Américains en matière d'aide au développement, ça c'est sûr. Acheter des vaccins, distribuer des médicaments anti-VIH, former la société civile, promouvoir la bonne gouvernance, les droits de l'homme, etc. Ce n'est pas la stratégie de Pékin. La stratégie de la Chine, c'est celle du carnet de chèques. 51 milliards de dollars de prêts bonifiés promis par Xi Jinping à l'Afrique en septembre avant l'élection de Donald Trump. Des investissements concrets, on vient d'en parler. Les Chinois construisent des infrastructures, ils fournissent, ils font payer de la technologie, ils font du commerce et bien sûr, ils vont accélérer le mouvement.
Et ça se joue au niveau des organisations internationales ?
Oui, là encore, le financement, c'est le nerf de la guerre. L'Afrique dépend, par exemple, largement de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, pour toutes sortes d'apports sanitaires. On l'a entendu au début de cette édition. Or, qui vient de quitter l'OMS ? Les États-Unis, au premier jour du mandat Trump 2, c'est encore donc une aubaine pour la Chine qui va, là aussi, augmenter sa contribution pour se rendre indispensable. On voit aussi, pour finir, la Maison-Blanche renoncer aux accords de Paris sur le climat. Pékin n'a plus qu'à se baisser. Le gouvernement chinois copilote déjà environ 90 projets d'énergie verte sur le continent. Les Chinois sont en pole position en matière de véhicules électriques, etc., technologies renouvelables. Il y a donc une place à consolider pour la Chine comme premier financeur des initiatives pour le climat en Afrique et de tout ce qui touche à la transition énergétique.
Et la question qui se pose, c'est est-ce que la Chine va laisser des miettes, par exemple, à l'Union européenne ? Pierre Benazé, bonsoir.
Bonsoir.
Le désengagement américain, il pose la question du rôle à venir de l'Union européenne. Vous êtes en direct de Bruxelles. Est-ce que l'UE a une carte à jouer ? Alors, on a évoqué, on va faire réagir nos invités sur ce sujet de la montée en puissance de la Chine, mais quelle est l'ambition de l'Europe dans les futures relations avec l'Afrique ?
Bah, on voit s'accélérer véritablement des tentatives et des approches diplomatiques, essentiellement au niveau politique et économique d'ailleurs, parce qu'au niveau militaire, les pays membres de l'Union européenne y favorisent désormais l'idée de soutien financier au déploiement d'armées nationales sur le continent, comme par exemple aux forces rwandaises dans la province de Cabo Delgado au Mozambique. Au plan diplomatique, il y a eu, on s'en souvient, le sommet avec l'Afrique du Sud le mois dernier, puis il y aura deux grands moments cette année, le 19 mai à Bruxelles, les ministres d'affaires étrangères de l'Union européenne et de l'Union africaine, et puis surtout le 7e sommet UE-UA qui devrait avoir lieu cet automne. C'est les 25 ans de coopération des deux organisations. L'Union européenne, elle veut multiplier les projets. Elle a déjà commencé, par exemple, il y a une semaine, elle a signé un programme de partenariat pour innovation et recherche spatiale en Afrique. Elle a mis 100 millions d'euros là-dedans. Et il faut noter aussi qu'elle veut mettre les moyens parce que elle a ce grand programme qui s'appelle Portail Mondial, dans lequel 26 des 46 projets phares de cette année sont situés en Afrique, et là-dedans, on a ce dont on parlait, de l'énergie, du climat, des infrastructures numériques, des infrastructures de transport qui sont concernées partout sur le continent.
Lisa Fabian, est-ce que, face à ce jeu politique qui évolue avec la nouvelle donne américaine, la question de la réponse de l'Afrique, comment l'Afrique peut réagir? Est-ce que le continent tente de nouer de nouvelles alliances?
Eh bien, pour l'instant, pas vraiment. En fait, il y a eu un moment de grande stupéfaction et il est encore un peu tôt pour voir les pays africains se mettre en ordre de marche, véritablement, pour trouver des alternatives à leurs relations avec les États-Unis. Sur le plan commercial, l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, pourrait par exemple offrir des perspectives intéressantes puisqu'il s'agit d'abaisser les barrières commerciales et d'harmoniser les réglementations pour favoriser les investissements transfrontaliers et donc accélérer la croissance économique sur le continent. Mais le spécialiste des relations internationales Scott Thomas, que j'ai interrogé, rappelait que ce projet manque encore des structures nécessaires pour favoriser pleinement ces relations commerciales. Ce chercheur estime aussi que l'Afrique doit se montrer prudente avant de nouer de nouvelles alliances. Les relations avec l'Union européenne et la Russie sont polarisées autour de l'Ukraine et le spectre du piège de la dette plane sur tout partenariat avec la Chine. En plus, tout n'est pas encore joué avec les États-Unis. L'Afrique du Sud, très malmenée mais qui a choisi une approche diplomatique douce, garde par exemple l'espoir de négocier un nouvel accord commercial alors que la loi de l'AGOA dont elle bénéficie pourrait bientôt disparaître.
Alain Antil, quelle peut être la réponse de l'Afrique justement à la politique américaine dont on a beaucoup parlé dans cette édition spéciale? Est-ce que il faut renforcer les relations avec la Chine? On a évoqué la place, évidemment la Chine c'est le premier partenaire commercial de l'Afrique. La montée en puissance, nous évoquait Pierre Benazé, possible de l'Union européenne. La ZECAF, nous évoquait Lisa Fabian, qui est la zone de libre-échange continentale africaine, mais qui pour l'instant ne semble pas aboutie.
Oui, il y a quand même. Enfin, les États-Unis sont très importants au niveau économique, au niveau de l'aide, mais au niveau économique, il y a quand même des. Depuis 2000, on a quand même une vague d'internationalisation des relations de l'Afrique. La Chine est évidemment le pays phare, mais derrière, on a les pays du Golfe, on a la Turquie, on a l'Inde, on a des pays développés aussi, le Japon, la Corée du Sud. Regardez tous les sommets qui se sont mis en place ces 10 ou 15 dernières années. Et on a aussi beaucoup de pays européens qui avaient finalement assez peu de liens avec l'Afrique, qui se sont mis à développer des stratégies africaines. Donc en fait, le départ des États-Unis, le retrait, à mon avis, alors ça dépend des secteurs, ça dépend des pays, mais il sera comblé par d'autres acteurs. Sur l'aide, c'est un peu différent, parce que les volumes sont très importants, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de volume d'aide, mais sur le commerce, sur les infrastructures, là il y aura une adaptation.
Eh bien, merci beaucoup à Alain Antil, responsable du programme Afrique subsaharienne de l'IFRI, Paul Simon Andy, qui était en ligne avec nous. Merci beaucoup, directeur du bureau Afrique de l'Est à l'Institut d'études et de sécurité. Cette édition spéciale est à présent terminée. On a fait le tour de la situation. Merci beaucoup. On a bouclé la boucle de ces 100 jours de Donald Trump à la Maison Blanche. Merci à Laurent Corot et Jean-Baptiste Le Tondeur, qui était à la rédaction en chef, Marie Normand, chef du service international de RFI, et à la réalisation, Hélène Avril et Lorraine Nemoza. Ne bougez pas, dans une minute, c'est le journal de 21h.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain. Hey. La sexologue de l'émission Noël Caillard-Cy répond à vos questions en direct.
Vendredi.
Question de femmes, question de parents, prévenir et traiter l'asthme.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Demain sur RFI, de vive voix, Lucie Wouteloup.
Résolument optimiste et toujours grande amoureuse, Barbara Carlotti, que nous avions quittée après la publication d'un recueil de nouvelles érotiques, revient cette fois en musique pour nous parler de son 7e album. Chéris ton futur, 12 titres à la pop piquante, élégante et lumineuse.
Les langues s'expriment de vive voix du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.